sous les couvercles, la good food.
Du bon sens dans notre assiette, Carlo. Ce que nous avons oublié de nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs. Voici le titre du nouvel ouvrage d'Anthony Berthoud, publié aux éditions Actes Sud. Anthony Berthoud, avec nous depuis Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes nutritionniste. On va faire les petites présentations. D'emblée, vous avez enseigné les enjeux mondiaux de l'alimentation 2050 au sein de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, aborder la nutrition en 2024, évidemment, nous intéresse dans le cœur de cette émission Bientôt à table. Mais vous l'abordez d'une manière très globale, holistique, j'ai envie de dire. Pour vous, la nutrition, ça ne consiste pas de parler que de ce que nous ingurgitons. Il ne s'agit pas non plus de se fixer qu'à des calories, à des apports nutritionnels. En ce qui vous concerne, Anthony Berthoud, vous aimez parler d'une approche intégrative, transversale. Et pour l'illustrer de manière très simple, vous donnez souvent l'exemple de la pomme que nous mangeons. J'aimerais que vous nous expliquiez d'emblée, avant d'entrer dans le vif du sujet, Anthony Berthoud.
Effectivement, j'aime beaucoup aborder la nutrition sous un angle systémique, parce que lorsque vous croquez dans une pomme, si on prend cet exemple, effectivement, vous allez croquer également potentiellement toute une filière, c'est-à-dire la façon dont elle a été cultivée. Vous allez potentiellement croquer dans des pesticides, des composés qui auront été utilisés pour justement sa culture en tant que telle, et en fonction de sa durée de stockage, en fonction de la façon dont vous allez la mastiquer, donc de l'état de votre système digestif, vous allez plus ou moins bien assimiler certains de ces nutriments et les internaliser dans vos cellules pour que les composés de cette pomme deviennent à part entière une partie de vous-même en tant que tel, c'est-à-dire que notre aliment, effectivement, nous constitue en tant que tel. Et quand on parle d'alimentation, on a aujourd'hui aussi nécessité d'approche écologique, puisqu'en fonction de la façon dont a été cultivé ou élevé des produits, si on sort de l'exemple d'élever des animaux, pardon, si on sort de l'exemple de la pomme, on sait qu'on a un impact justement sur ces aspects écologiques. Donc il ne s'agit pas simplement de regarder l'aliment comme une source, une addition de nutriments, mais vraiment comme une approche globale, que ce soit d'un point de vue écologique, de santé, au sens également des contaminants.
Vous tenez un discours finalement, Anthony Berthoud, qui enseigne l'ensemble des enjeux de la nutrition, des enjeux environnementaux, géopolitiques même, nutritionnels, et vous l'écrivez par exemple, en 50 ans, une pomme a perdu 80% de sa teneur en minéraux. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors, ça, c'est une donnée, par contre, qui mérite d'être fortement nuancée. Il faut savoir que selon les études, on peut avoir des disparités. Simplement, aujourd'hui, on a, si on prend l'exemple de la culture, effectivement, des méthodes qui sont intensives, très souvent, et cette méthode peut impacter potentiellement la qualité nutritionnelle. Et plus que les minéraux, on sait aujourd'hui que la teneur dans ce qu'on appelle les polyphénols, qui sont des composés à la base de défense des végétaux contre les agressions, que ce soit lié à de la sécheresse, que ce soit à un excès de chaleur, que ce soit à des parasites ou autres. Et donc ces polyphénols vont se densifier quand le végétal est soumis à ces agressions. Quand vous avez une pomme, si on reste sur cet exemple, qui va être entre guillemets chouchoutée, c'est-à-dire qu'elle va être dans un environnement où on va apporter des fertilisants, des pesticides, on va éviter en fait qu'elle soit agressée pour un meilleur rendement, on perd de la densité dans ces polyphénols, à l'inverse d'une pomme qui aurait été cultivée de manière tout à fait traditionnelle, où là on va augmenter cette densité. Donc plus que de minéraux, c'est vraiment les polyphénols qui sont concernés.
Alors dans cet ouvrage du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs cueilleurs. Alors, vous posez d'emblée les choses, d'entrée de jeu, vous nous présentez, nous, l'homo modernus, l'homme de notre siècle. Il vit en ville, il se rend à son bureau volant, il y passe sa journée face à des ordinateurs, des repas qui se limitent à des aliments ultra transformés, on en parle beaucoup dans ce livre, emballés dans du plastique, on y ajoute des sodas, etc., etc. Le tout savamment produit par un système agroalimentaire qui a priorisé les rendements économiques sur la santé de ses clients et plus inquiétant sur celle de la planète. Et vous parlez des révolutions alimentaires, passionnant. Il y a Cro-Magnon, la cueillette, la chasse. Et puis il y a une deuxième révolution alimentaire. Et vous l'écrivez, en 40-50 ans, notre régime alimentaire s'est totalement transformé. Et c'est là qu'est le bât blesse. Racontez-nous.
Alors, au-delà de notre régime alimentaire, c'est surtout les méthodes de production et de consommation qui ont fortement évolué. Et effectivement, quand vous parlez de révolution, alors j'aime bien caricaturer avec Homo modernus, parce que vous l'aurez compris, c'est une caricature bien entendu, mais
elle est bien. Elle nous parle.
Voilà, parfois elle peut se rapprocher de la réalité de certains, mais si on se place à l'échelle de l'évolution, c'est vrai qu'on a eu une première transition nutritionnelle très importante qui date du néolithique, c'est-à-dire il y a à peu près 10 000 ans, où on est passé d'un état de chasseur-cueilleur à un état plus sédentaire, avec beaucoup de guillemets, puisque c'est très relatif si on le compare à notre mode de vie actuel, mais où on a eu des méthodes de culture, des méthodes d'élevage, et donc un impact en fait sur notre qualité nutritionnelle, ou en tout cas notre façon de consommer certains aliments. Et cette deuxième révolution qui est post-Seconde Guerre mondiale, on parle beaucoup des Trente Glorieuses, voilà, de ces années 70 où sont apparues effectivement toute une série de méthodes de production, que ce soit également de culture, d'élevage, de transformation des aliments, qui bien sûr ont un effet sur la qualité nutritionnelle. Et aujourd'hui, on a beaucoup de publications qui mettent en évidence l'impact de la transformation notre santé. Au-delà de la qualité nutritionnelle en tant que telle, c'est vraiment le niveau de transformation qui est un élément important à considérer.
C'est ça, mais il y a eu cette première évolution nutritionnelle qui s'est étalée sur des milliers d'années, et puis cette seconde qui, elle, a été ultra rapide. Et c'est quoi cette rapidité qui, à l'échelle du vivant, ne nous permet plus de nous adapter de manière, j'allais dire, harmonieuse? C'est un peu ça le problème, ça a été trop vite?
Alors c'est très probablement une question, un curseur de vitesse. Effectivement, c'est vrai que la vie, le vivant de manière générale est extraordinaire en termes de capacité d'adaptation, et c'est ce qui nous a guidés pour être ce que nous sommes aujourd'hui, et à travers, je dirais, différentes espèces, si on sort bien sûr de l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'on a eu besoin de s'adapter aux modifications de notre environnement, mais à une vitesse extrêmement courte à l'échelle de notre génétique, c'est-à-dire que on a notre capital génétique qui peut s'adapter au cours du temps, mais effectivement, non pas en quelques années, mais plutôt on peut parler de milliers ou de dizaines de milliers d'années en tant que telles. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques décennies, on a complètement bouleversé notre mode de vie. C'est-à-dire qu'on parle ici de l'alimentation, mais on peut aussi introduire la notion de sédentarisation, de manque d'activité physique.
Oui, à nouveau, c'est global le problème est global, effectivement.
Exactement, et donc effectivement, on se retrouve avec une alimentation qui est, encore une fois, ultra transformé, qui n'est pas à l'image des produits bruts qu'on a pu connaître pendant très longtemps. Et on a des capacités d'adaptation rapides, sans être trop technique, on parle d'épigénétique, c'est-à-dire de l'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes, mais c'est une notion différente de la génétique. Et cette génétique, effectivement, elle s'adapte très lentement, et donc on a une hypothèse, une terminologie scientifique de mismatch hypothèse, c'est-à-dire de notion de maladie de la désadaptation évolutive.
Ah oui.
C'est-à-dire que ce qui aurait pu nous aider au cours du temps de manière très lente, au final, peut se retourner contre nous par rapport à la vitesse de changement en fait, de cet environnement.
Pour bien résumer, pour que nous comprenions tout ce que vous voulez dire, c'est que finalement, on a, à l'échelle de l'humanité, une information génétique qui a finalement assez peu évolué, mais que cet environnement alimentaire aujourd'hui délétère, qu'on vit depuis 50-60 ans, est pour nous un véritable tsunami.
Oui, on peut la résumer ainsi, au sens où, finalement, encore une fois, au-delà de l'alimentation, notre mode de vie vient créer ce qu'on appelle des empreintes épigénétiques, c'est-à-dire un peu comme des post-it qu'on viendrait coller sur nos gènes pour faciliter leur expression, ou au contraire, limiter cette expression.
Ouais. Mais alors, si je vous comprends bien, Anthony Berthoud, je rappelle que vous êtes nutritionniste et auteur de cet ouvrage du bon sens dans notre assiette, on est là dans le cœur d'un terreau très fertile et propice à l'émergence de ces maladies dites de civilisation, hein, je pense à l'obésité, au diabète, etc., etc. C'est ça le déclencheur, le facteur déclencheur?
Si on parle des maladies chroniques et de ces fameuses maladies de civilisation, c'est plus la conséquence en fait de ce mode de vie en tant que tel, et effectivement le mode de vie peut être considéré comme le déclencheur. C'est-à-dire que ces pathologies ont, comme la plupart des maladies, deux composantes, une part génétique et une part épigénétique, c'est-à-dire liée, encore une fois, à notre mode de vie. Et finalement, lorsqu'on parle de diabète de type 2, par exemple, qui est donc une pathologie qui évolue fortement aujourd'hui, elle est relativement logique au regard des désadaptations qu'on met en place à travers notre mode de vie. Mais effectivement, quand on regarde les données scientifiques, on estime que, notamment en Europe, quasiment un décès sur cinq pourrait être, de manière prématurée, pourrait être lié à l'alimentation.
Vous parlez beaucoup aussi dans cet ouvrage, Anthony Berthoud, de l'impact de la déstructuration des aliments sur la santé, ces aliments ultra transformés. Bon, on imagine bien que les ingrédients qui les composent ne sont pas au top pour notre santé, mais vous parlez, j'ai l'impression, d'autre chose. Le fait d'avoir déstructuré le produit brut est un problème en soi.
Oui, et ça revient à la notion que j'évoquais tout à l'heure d'ultra-transformation. Mmh. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on étudie l'impact du statut nutritionnel sur la santé, et si on prend l'exemple de notre pomme de tout à l'heure, sa teneur en vitamines, en minéraux, en macronutriments, que ce soit des glucides, des protéines, etc. Et on a des données qui montrent justement leur intérêt, mais on a également aujourd'hui un certain nombre de publications qui mettent en évidence l'impact du niveau de transformation, indépendamment de la teneur en nutriments, justement sur les risques de pathologies qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc de manière très simple, le niveau de transformation va jouer sur les risques de ces pathologies, indépendamment de la teneur en glucides, en protéines ou en micronutriments.
Mais justement, nos auditeurs qui nous écoutent, j'essaye de voir dans leur tête et j'ai l'impression qu'ils nous demandent un petit peu des exemples. Qu'est-ce qui est ultra transformé ? Une pizza surgelée ? Ou même tout simplement la baguette, le pain ? C'est quoi la définition du trop transformé ?
Alors, c'est une très bonne remarque et aujourd'hui, on a des indices, justement, notamment de 1 à 4, qui vont définir ce niveau de transformation. Lorsque vous parlez d'une pizza ou d'une baguette, on a un niveau de transformation qui est réel, mais qui ne va pas être aussi important que si on parle d'un bol de céréales soufflées, de soda ou autre, qui là sont des aliments qui sont dans la catégorie des produits les plus transformés. Et lorsque vous consommez donc des céréales soufflées ou des biscuits secs industriels, etc., il ne s'agit pas de les stigmatiser eux plus que d'autres, mais pour vous donner justement un exemple par rapport à votre question, on a certes des nutriments, mais on a surtout déstructuré cette matrice alimentaire et c'est ce sur quoi se penchent les publications dont on parlait tout à l'heure.
Il y a pas mal d'éléments aussi très scientifiques, hein, un peu compréhensibles pour les béotiens que nous sommes, mais j'aimerais quand même qu'on en parle. Vous parlez un moment de l'homéostasie cellulaire. En néerlandais, oui. Chez nous, on dit « what is that ?» Qu'est-ce que c'est que ça ? Et pourquoi est-ce important de comprendre ce concept pour notre nutrition du quotidien, Anthony Berthoud ?
Oui, alors, si vous me le permettez, je vais me donner deux notions, une note complémentaire à l'homéostasie pour comprendre justement cet aspect global, à savoir que l'homéostasie, c'est un principe de biologie qui définit simplement le fait que nos cellules sont programmées pour revenir à leur état d'équilibre lorsqu'elles subissent un stress, une modification, quelle qu'elle soit. Et la deuxième notion qui est à corréler est la notion d'hormèse, c'est-à-dire que c'est un terme assez récent qui finalement définit qu'un stress peut avoir un impact positif ou délétère en fonction de son intensité, de sa durée, mais aussi de celui qui va recevoir ce stress. Mmh. Donc, quand on parlait d'évolution tout à l'heure, il faut savoir que cette évolution, elle est permise par l'existence de ces stress qui vont favoriser les adaptations. Donc, en fait, un stress, je ne parle pas psychologique, hein, je parle au niveau cellulaire, est en soi un élément qui est adaptatif et qui est positif.
Oui, c'est l'adrénaline pour nous sauver, pour nous protéger d'un danger. Au départ, c'est ça, finalement, le stress.
Voilà, alors là, on est effectivement dans un stress aigu, qui est immédiat, et puis on peut avoir des petites adaptations qui se mettent en place au cours du temps, et qui nous sont positives. La difficulté, et c'est là où on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui une démultiplication des facteurs de stress qui peuvent être importants et très rapide. Et là, effectivement, on a une difficulté à revenir à un état d'équilibre et donc on peut voir émerger des troubles fonctionnels, voire des pathologies sur le long terme. Techniquement, on parle beaucoup d'inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation qui est pernicieuse, qui est latente, qui s'est mise en place au cours du temps et qui va être le terreau, finalement, de l'expression de troubles.
Et donc, si je vous suis bien, un aliment ultra transformé mangé au quotidien est un stress, finalement, pour l'organisme, pour la cellule.
Si on le caricature un petit peu, effectivement, on peut le voir, on peut le voir ainsi, mais c'est surtout la démultiplication, en fait, de ces facteurs de stress et leur durée qui va poser problème. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus, encore une fois, de stigmatiser des aliments ultra transformés si vous en consommez de manière occasionnelle.
Oui.
Et je dirais que ça s'intègre dans une hygiène de vie qui est tout à fait cohérente. Mais si on prend notre caricature d'Homo modernus de tout à l'heure, effectivement, si vous ne réalisez plus d'activité physique, et l'activité physique est un stress en soi, et un stress, encore une fois, qui nous est positif, voilà, dès lors qu'il ne dépasse pas nos capacités d'adaptation. Donc on en est toujours à cette notion d'équilibre. Si vous avez une surconsommation d'aliments ultra transformés, si vous êtes stressé de manière chronique, si vous vous exposez à ces fameux pesticides ou autres contaminants environnementaux, effectivement, là, la charge de stress est trop importante. Et en fonction de notre terrain génétique, de notre prédisposition, on va être amené à plus ou moins favoriser l'expression d'un trouble ou d'une pathologie, ces fameuses pathologies de civilisation.
Oui, c'est important aussi de rappeler, c'est aussi tout l'objet de ce livre, d'adapter son alimentation et de l'équilibrer, c'est très important. Parlons régime. Ah, Carlo, le régime. On n'aime pas ça, nous, hein, bientôt.
Je
ne
sais pas ce que c'est, en fait. Je ne sais pas ce que c'est.
Eh bien, vous le dites, Anthony Vertou, il provoque souvent de la désadaptation cellulaire. Bon, les régimes amaigrissants, donc, en gros, quand on prend du poids, bien, la cellule s'adapte. Et à l'inverse, si on veut maigrir rapidement, il y a à nouveau une agression de la cellule. Mais qu'est-ce qu'on fait alors, docteur?
Alors, pas en tant que docteur du tout, mais de toute façon, la prise de poids va être un stress cellulaire. Et là aussi, sans rentrer dans trop de détails, lorsque votre cellule graisseuse devient trop importante, on va créer ce qu'on appelle une hypertrophie qui va être associée à une moindre oxygénation des cellules. Là aussi, je simplifie. Ce qui va être le point de départ d'un état d'inflammation de bas grade, terme que j'évoquais tout à l'heure. Donc des personnes qui souffrent d'obésité importante de manière pérennes sont dans des états d'inflammation de bas grade. C'est pour ça qu'on considère l'obésité aujourd'hui comme une maladie chronique, inflammatoire en tant que telle, puisque c'est un mécanisme désadaptatif qui s'est mis en place au cours du temps. Et à l'inverse, lorsqu'on souhaite mincir, on a des curseurs, on parle parfois d'adipostate, c'est-à-dire un petit peu comme votre réserve d'essence dans votre voiture, c'est-à-dire que si vous arrivez en dessous d'un certain seuil, vous allez avoir un voyant rouge qui va s'allumer pour indiquer que vous avez besoin de refaire le plein. Et si vous avez un amincissement qui est trop rapide, on va initier des réponses endocriniennes, des sécrétions d'hormones qui visent à rétablir un certain niveau. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, les régimes qui sont réalisés de manière trop rapide, avec donc un amincissement important et rapide, vont créer un contre-effet qui est que l'organisme va chercher à effectivement compenser.
Elle va se goinfrer après, quoi, la cellule. Mais justement, par exemple, Carlo avait aussi une question, mais c'est quoi une perte de poids correcte sur le temps, Anthony Vertou?
Alors, c'est là aussi délicat de le définir avec des données chiffrées précises.
Oui, mais c'est quoi? C'est 4-5 kilos par mois? C'est 1 kilo par semaine? C'est moins? Alors, c'est plus? Pour qu'on puisse un peu comprendre quand même.
Oui, bien sûr. Ben, on estime que souvent un déficit de l'ordre de 5 à 7% de l'apport énergétique total permet de placer le curseur de façon à justement initier l'amincissement sans créer de contre-adaptation trop importante. Donc ça veut dire que c'est très peu, c'est-à-dire que si vous consommez 2500 kilocalories par jour, ça veut dire à peine 150 à 200 calories par jour d'amincissement en tant que tel.
Ouais, mais moi je calcule pas mes calories à ingurgiter, mais si je perds un kilo par semaine, par exemple, pour une personne en léger surpoids, comme nous, Carlo, c'est trop?
On va laisser Anthony répondre, mais
c'est
beaucoup trop.
C'est pour ça que, c'est ce que j'allais vous évoquer après les calories, puisque bien entendu, l'idée n'est pas de raisonner en calories, mais de vous me parliez de chiffres, de vous donner un ordre d'idée à ce niveau-là, ce qui fait qu'un amincissement d'un kilo tous les mois, par exemple, sera plutôt dans cette échelle.
Ça fait 12 kilos par an. Mais justement, Anthony, on sait tout ça. On l'a déjà répété dans cette émission. Beaucoup d'experts viennent le disent régulièrement. Une perte de poids rapide, c'est pas bon. Un régime hyperprotéiné, très efficace sur le poids, mais fait un effet rebond pas possible.
Oui, c'est ça.
Et comment ça se fait qu'on sait tout ça et que ces régimes amincissants, justement, basés sur la rapidité, à base de flocons d'avoine, continuent à avoir autant de succès. Alors que, vous le dites très très bien, il ne faut pas être trop ambitieux, il faut compenser, il faut réduire effectivement très légèrement son apport calorique et bouger. Et ça, on nous le répète à l'envi, mais ça ne prend pas.
Mais souvent, je donne cet exemple qu'on aime, bien sûr, la promesse, et la promesse rapide. C'est-à-dire que plus elle est importante et dithyrambique, quelque part, et finalement, plus on a envie d'y croire, puisque ça nous permet d'éviter de revoir en profondeur notre mode de vie. Et aujourd'hui, il ne s'agit absolument pas d'avoir un discours culpabilisateur ou moralisateur, bien au contraire. C'est de comprendre aussi qu'on est dans une société où on a compressé un certain nombre d'éléments comme le temps de cuisine, le temps de repas, même si on peut parler de durée de repas en tant que tel. On manque de temps, donc on a été chercher ce temps sur notre préparation, notre cuisine, notre temps de repas en tant que tel. On a arrêté de bouger de manière régulière, puisqu'on est, on a nos véhicules, etc. Et donc, on va chercher du temps là où on pense que c'est utile, mais au détriment de notre santé. Donc, c'est vraiment pour moi un sujet de fond, c'est-à-dire quel mode de vie on a mis en place au cours, effectivement, des dernières décennies, et en quoi ce mode de vie peut favoriser l'émergence de troubles, voire de pathologies. Donc, on n'est pas à l'échelle de l'individu, mais effectivement du collectif.
C'est global. La démarche nutritionnelle, elle doit être globale et elle doit bien être intégrée pour qu'elle fasse effectivement effet. Vous parlez aussi du gras, du sucré, du mou. Le mou, c'est grave, docteur ? Je vous appelle docteur, mais vous ne l'êtes pas, docteur. Hein, mais c'est l'expression.
Tout à fait. C'est un des problèmes justement de l'ultra-transformation qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir que on a des textures qui effectivement sont devenues molles quand vous consommez de la brioche, des pâtisseries industrielles, des compotes au lieu de croquer dans votre pomme ou autre. Vous avez donc une digestibilité à la limite qui peut être meilleure si on parle de la compote par rapport à la pomme, mais l'état de satiété va être différent. C'est-à-dire que notre cerveau a besoin de mastiquer pour bien comptabiliser justement ces calories et déclencher de la satiété au bout d'un temps donné, et on estime au moins 20 minutes. C'est-à-dire que si vous mangez en 5 ou 10 minutes une grande quantité d'aliments qui plus est mou pour vous permettre justement de le faire rapidement, finalement vous allez peut-être dépasser votre besoin sans vous en rendre compte en tant que tel, et ce qui peut être effectivement un des effets de cette alimentation ultra transformée.
Et donc on mange aussi lentement, et donc ce qu'on retient de cet ouvrage, c'est du bon sens finalement, c'est ce que nos ancêtres pratiquaient et que nous avons progressivement et même très vite oublié. Plus de végétal, moins de protéines animales, on mange lentement, on privilégie évidemment les produits bruts, on met de la couleur aussi dans l'alimentation. La couleur, c'est aussi des pigments qui nous protègent. Et puis on réapprend à cuisiner, c'est peut-être ça le mot de la fin, Anthony Berthoud.
Oui, cuisiner, on peut également dire la main, de connaître la main qui nous nourrit, c'est-à-dire de revaloriser les agriculteurs locaux qui font un travail de très bonne qualité. Et en fait, on va rentrer dans un schéma vertueux, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, on va aider aussi souvent des agriculteurs qui peuvent être en difficulté, on va mieux connaître ces aliments, on va aussi pouvoir s'orienter vers des modèles au-delà du côté biologique. On peut parler d'agroécologie, de permaculture ou de systèmes qui se développent et qui mettent en évidence des réels bénéfices à de nombreux niveaux. Donc effectivement, c'est de revenir à du bon sens en s'appuyant sur la science récente, ce qui peut paraître un peu étonnant en tant que tel, mais on a besoin d'objectiver, on a besoin de démontrer les éléments. Là, aujourd'hui, on cherche à démontrer que ce qu'on pouvait faire auparavant, et il ne s'agit pas d'être nostalgique, c'était mieux avant, parce qu'il y a énormément d'aspects positifs dans notre situation actuelle, mais d'un point de vue de l'alimentation, effectivement, le simple fait d'aller vers des produits bruts, locaux, de saison, par des filières courtes et avec le moins d'intrants chimiques, c'est une base qui me paraît essentielle.
Oui, et comme le souligne très bien le chef Thierry Marx, qui signe la préface de cet ouvrage, finalement, manger de la piètre qualité, c'est la triple panne. Au départ, ce qu'on ingurgite, ce que ça va nous coûter en soins sur le long terme, ce que cela va coûter à la société, l'environnement. À nouveau, c'est ce cercle vertueux qu'il faut réapprendre. Ça paraît basique, logique, hein, Carlo, que de le rappeler, mais pas tant que ça, vu l'état du contenu des caddies aujourd'hui, oui. On est bien loin du compte. Hein.
Et juste pour 10 secondes, je résume quelque chose qui me plaît beaucoup chez Anthony Berthoud, c'est la notion de sensation. En fait, si on... On parle de la satiété, mais c'est toutes les sensations. C'est comme les sportifs. Les sportifs de haut niveau, ils disent toujours, j'avais pas les bonnes sensations, mais je pense que par rapport à la bouffe, si on doit éviter de collationner trop d'infos, on peut juste se dire, est-ce que je me sens bien après? Est-ce que je me sens bien dans 4 ou 5 heures? Et sans souvenir, la prochaine fois qu'on va manger, par exemple, le croissant à l'huile de palme, pas assez cuit, au hasard, de la cafétéria. Voilà.
On s'est fait des amis aujourd'hui.
Non, mais voilà, mais c'est les sensations pendant... Oui. Juste après et 4 heures après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Anthony, en une seconde.
Oui, je vous remercie de préciser ça. Je dis souvent de manger en conscience.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le dites à très, très juste titre, cette notion de sensation, mais aussi la conscience de la filière, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport notamment aux filières courtes, et de se dire je prends un vrai temps pour moi, où effectivement je mastique, où je vais profiter de ce moment avec mes amis, ma famille, mes collègues de travail, peu importe, mais en tout cas on a un vrai temps dédié, et de comprendre que notre santé est extraordinaire, la biologie, le vivant est extraordinaire, et de comprendre que ce qu'on met dans notre assiette à un moment donné va devenir une part de nos cellules, se respecter, prendre soin de soi, c'est accepter d'aller chercher des aliments de qualité plutôt que des aliments qui sont effectivement faits de manière parfois inadapté pour faire très simple.
Et fait sans intention, souvent, il faudrait aussi s'en rappeler. Anthony Berthoud, merci beaucoup pour cet éclairage très important dans nos existences. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, préfacé par notre ami Thierry Marc, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on ne le reçoit plus dans cette émission, et c'est publié dans une très très belle maison d'édition, les éditions Actes Sud. Anthony Berthoud, je vous souhaite un bon appétit.
Merci,
c'est l'heure
du
déjeuner. Et puis nous, en ce qui nous concerne, Carlo, dans 4 jours, c'est la Saint-Valentin. On va aller au restaurant.
En ce qui nous concerne, en ce qui concerne tout le monde.
Et Michel Verlinden, qui boit son thé matcha là derrière la vitre, va venir nous donner quelques adresses.
Son matcha latte au lait d'avoine.
Très romantique. Attention, flèche, amis. Merci beaucoup, Anthony Berthoud. À tout bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.